Joris Karl Huysmans, La cathédrale, chapitre 16. Le jour était venu de boucler sa valise et de prendre en compagnie de l'abbé Plomb le train. Durtal s'énerva dans l'attente des heures, ne tenant plus en place. Il sortit pour tuer le temps, mais la pluie qui commençait à tomber le rabattit dans la cathédrale. Il s'installa, après avoir visité la Madone du Pilier, au fond de la nef, dans un camp de chaises vides, et il songea. Avant de rompre par un voyage le monotone train-train de ma vie à Chartres, ne serait-il pas utile de m'asseoir, ne fût-ce que pendant une minute, en moi-même, et de recenser les acquisitions que j'ai faites avant et depuis mon arrivée dans cette ville. Celles de mon âme, hélas, elles sont moins des acquisitions que des échanges. J'ai simplement troqué mes indoléances contre des sécheresses, et les résultats de cette brocante, je ne les connais que trop. À quoi bon les énumérer encore? Celles de mon esprit? Elle me semble moins affligeante et plus sûre, et je puis en établir un rapide inventaire disposé en trois colonnes, passé, présent et avenir. Passé, alors que je n'y pensais guère à Paris, Dieu m'a subitement saisi, et il m'a ramené vers l'Église, en utilisant pour me capter mon amour de l'art, de la mystique, de la liturgie, du plein chant. Seulement, durant le travail de cette conversion, je n'ai pu étudier la mystique que dans des livres. Je ne la possédais donc qu'en théorie, et nullement en pratique. D'autre part, je n'ai écouté à Paris qu'une musique plane, affadie, délayée dans des gosiers de femmes ou complètement défigurée par des maîtrises. Je n'ai assisté dans la majeure partie des églises qu'à des déteintes de cérémonie, qu'à des décomptes d'office. Telle était la situation lorsque je suis parti pour la Trappe. En cette ascétaire, je vis alors non plus simplement la mystique racontée, écrite, formulée, en un corps de doctrine, mais bien encore la mystique expérimentale, mise en action, vécue naïvement par des moines. Je pus me certifier que la science de la perfection de l'âme n'était pas un leurre, que les assertions de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix étaient exactes, et il me fut également permis, dans ce cloître, de me familiariser avec les délices d'un rite authentique et d'un réel plein chant. Présent. À Chartres, je suis passé à de nouveaux exercices. J'ai suivi d'autres pistes. Hanté par l'inégalable splendeur de cette cathédrale, j'ai, sous l'impulsion d'un vicaire très intelligent et très instruit, abordé la symbolique religieuse. Commenter cette grande science du Moyen-Âge qui constitue un dialecte spécial de l'Église, qui divulgue par des images, par des signes, ce que la liturgie exprime par des mots. Pour être plus juste, il conviendrait plutôt de dire, de cette partie de la liturgie qui s'occupe plus spécialement des prières, car l'autre, qui a trait aux formes et aux ordonnances du culte, appartient au symbolisme surtout, car c'est lui qui en est l'âme. La vérité est que la démarcation des deux sciences n'est pas toujours facile à tracer, tant parfois elles se greffent l'une sur l'autre, s'inspirent mutuellement, s'entremêlent, finissent presque par se confondre. Avenir. En me rendant à Solesmes, j'achèverai mon éducation. Je verrai et j'entendrai l'expression la plus parfaite de cette liturgie et de ce chant grégorien dont le petit monastère de Notre-Dame de Lâtre n'a pu, à cause même du nombre restreint de ses officiants et de ses voix, que me donner une réduction très fidèle, il est vrai, mais enfin une réduction. En y joignant mes études personnelles sur la peinture religieuse, enlevée des sanctuaires et maintenant réunie dans des musées, en y ajoutant mes remarques sur les diverses cathédrales que j'explorais, j'aurais ainsi parcouru tout le cycle du domaine mystique, extrait l'essence du Moyen-Âge, réuni en une sorte de gerbe ces tiges séparées, éparses depuis tant de siècles, observé plus à fond l'une d'elles, la symbolique, dont certaines parties sont à force de les avoir négligées, presque perdues, la symbolique. Elle a été l'attrait décidé de ma vie à Chartres. Elle m'a allégé et consolé lorsque je souffrais de me sentir l'âme si importune et si basse. Et il tenta de se la remémorer, de l'embrasser en son ensemble. Elle jaillissait comme un arbre touffu, dont la racine plongeait dans le sol même de la Bible. Il y puisait en effet sa substance et en tirait son suc. Le tronc était la symbolique des Écritures, la préfiguration des Évangiles par l'Ancien Testament, les branches, les allégories de l'architecture, des couleurs, des gemmes, de la flore, de la faune, les hiéroglyphes des nombres, les emblèmes des objets et des vêtements de l'Église. Un petit rameau déterminait les odeurs liturgiques et une brindille desséchée dès sa naissance est quasi morte. La danse. Car la danse religieuse a existé, reprit Durtal. Elle a été dans l'Antiquité l'offrande de l'adoration, la dîme des liesses. David sautant devant l'arche en était une preuve. Dans les premiers temps du christianisme, les fidèles et les prêtres se trémoussent pour honorer le Seigneur, croient en Cluny gitant, imiter l'allégresse des bienheureux, la joie de ces anges que saint Basile nous montre, exécutant des pas dans les redoutes parées du ciel. L'on en arrive bientôt, ainsi qu'à Tolède, à tolérer des messes dites musarabes, pendant lesquelles les ouailles gambadent en pleine cathédrale. Mais ces cabrioles ne tardent pas à exclure le caractère pieux qu'on veut bien leur prêter. Elles deviennent un piment pour le ragoût des sens, et plusieurs conciles les interdisent. Au XVIIe siècle, les ballets dévots survivent cependant dans certaines provinces. On les découvre à Limoges, où le curé de Saint-Léonard et ses paroissiens pirouettent dans le cœur de l'église. Au XVIIIe siècle, l'on discerne leurs traces dans le Roussillon. À l'heure actuelle, la danse liturgique persiste encore, mais c'est en Espagne surtout que la tradition de ces saintes fariboles s'est conservée. Il n'y a pas très longtemps, lors de la fête du Corpus Christi à Compostelle, la procession était précédée dans les rues par un individu de haute taille qui se démenait en portant un autre homme sur ses épaules. Actuellement encore, à Séville, le jour de la fête du Saint-Sacrement, des enfants de chœur se dandinent en une sorte de valse lente et chantent des cantiques devant le maître-autel de la cathédrale. Dans d'autres villes, aux fêtes de la Vierge, on déroule une sarabande autour de sa statue. L'on entrechoque des bâtons, l'on joue des castagnettes. Et pour clore la cérémonie, les assistants font en guise d'amen crépiter des pétards. Mais tout cela est médiocrement intéressant, et je me demande en tout cas quels sens peuvent bien être attribués à des entrechats, à des ronds de jambes. Je m'imagine difficilement que des farandoles et des boléros puissent feindre des prières. Je me persuade mal que l'on récitait des actions de grâce, en pilant du poivre avec ses pieds et en envirant une illusoire manivelle de moulin à café avec ses bras. La vérité est que le symbolisme de la danse est ignoré, qu'aucune règle ne nous est parvenue des acceptions que les anciens lui assignèrent. Au fond, la danse liturgique est une joie grossière des gens du midi. Bornons-nous donc à la cité pour mémoire, et voilà tout. Quelle a été maintenant, au point de vue pratique, l'influence du symbolisme sur les âmes? Et Durtal se répondit, le Moyen-Âge, qui savait que sur cette terre tout est signe, tout est figure, que le visible ne vaut que parce qu'il recouvre d'invisible, le Moyen-Âge n'était pas, par conséquent, dupe, comme nous le sommes des apparences. Étudia de très près cette science, et fit d'elle la pourvoyeuse et la servante de la mystique. Convaincu que le seul but qu'il importait à l'homme de poursuivre, que la seule fin qu'il lui était nécessaire, ici-bas d'atteindre, c'était d'entrer en relation directe avec le ciel et de devancer la mort en se versant, en se fondant autant que possible en Dieu, il entraîna les âmes, les soumit à un régime tempéré de cloître, les émonda de leurs préoccupations terrestres, de leurs visées charnelles, les orienta toujours vers les mêmes pensées de renoncement et de pénitence, vers les mêmes idées de justice et d'amour, et pour les contenir, pour les préserver d'elles-mêmes, il les cerna d'une barrière, mit autour d'elles Dieu en permanence, sous tous les aspects, sous toutes les formes. Jésus surgit de partout, s'attesta dans la faune et dans la flore, dans les contours des monuments, dans les parures, dans les teintes, de quelque côté qu'il se tourna, l'homme le vit. Et il vit aussi de même qu'en un miroir qu'il a reflété sa propre âme. Il put reconnaître dans certaines plantes les qualités qu'il devait acquérir, les vices contre lesquels il lui fallait se défendre. Puis il eut encore devant les yeux d'autres exemples, car les symbolistes ne se bornèrent point à convertir en des cours de catéchisme des traités de botanique, de minéralogie, d'histoire naturelle, d'autres sciences. Quelques-uns, au nombre desquels saint Militon, finirent par appliquer leur procédé d'interprétation à tout ce qu'ils rencontrèrent. Une cithare se mua pour eux en la poitrine des hommes dévots. Les membres du corps humain se métamorphosèrent en des emblèmes. Ainsi la tête signifia le Christ, les cheveux, les seins, le nez, la discrétion, les narines, l'esprit de foi, l'œil, la contemplation, la bouche, la tentation, la salive, la suavité de la vie intérieure, les oreilles, l'obéissance, les bras, l'amour de Jésus, les mains, les œuvres, les ongles, la perfection des vertus, les genoux, le sacrement de pénitence, les jambes, les apôtres, les épaules, le joug du Fils, les mamelles, la doctrine évangélique, le ventre, l'avarice, les entrailles, les préceptes mystérieux de notre Seigneur, le buste et les reins, les pensées de luxure, les os, l'endurcissement, la moelle, la componction, les cartilages, les membres infirmes de l'Antéchrist. Et ces écrivains étendirent leur mode d'exégèse aux objets les plus usuels, aux outils, aux instruments même, qui se trouvaient à la portée de tous. Ce fut une succession ininterrompue de leçons pieuses. Yves de Chartres nous l'affirme, les prêtres enseignaient la symbolique au peuple, et il résulte également des recherches de Dompitra qu'au Moyen-Âge, l'œuvre de saint Militon était populaire et connue de tous. Le paysan savait donc que sa charrue était l'image de la croix, que les sillons qu'elle traçait étaient les cœurs labourés des saints. Il n'ignorait pas que les gerbes étaient les fruits de la contrition. La farine, la multitude des fidèles, la grange, le royaume des cieux, et il en était de même pour bien des métiers. Bref, cette méthode des analogies fut pour chacun une constante invite à se mieux observer et à mieux prier. Ainsi maniée, la symbolique servit de garde-frein pour enrayer la marche en avant du péché et de levier pour soulever les âmes et les aider à franchir les étapes de la vie mystique. Sans doute cette science traduite par tant de langues ne fut accessible que dans ses principales lignes aux masses. Et parfois quand elle se tréfila dans des esprits chantournés tels que celui du bon durant de monde, elle eut l'air d'être décousue, pleine de volte-face, d'acception et d'aléas de sens. Il semble alors que le symboliste se complaise à découper dans de petits ciseaux à broder un cil. Mais en dépit de ces exagérations qu'elle tolérait en souriant, l'Église n'en réussit pas moins, par cette tactique de l'insistance, à sauver les âmes, à pratiquer en grand la culture des saints. Puis vint la Renaissance, et la symbolique sombra en même temps que l'architecture religieuse. Plus heureuse que ses vassales, la mystique proprement dite a survécu à cette époque de joyeux opprobre. Car l'on peut assurer que si elle a franchi cette période sans rien produire, elle a ensuite épanoui dans l'Espagne ses plus magnifiques touches, avec saint Jean de la Croix et sainte Thérèse. Depuis lors, la mystique doctrinale paraît tarie. Mais il n'en est pas de même de la mystique expérimentale, qui continue à s'acclimater, à se développer dans les cloîtres. Quant à la liturgie et au plein chant, ils ont passé par les phases les plus diverses. Après s'être éparpillés et décomposés dans les bréviaires les plus variés des provinces, la liturgie a été ramenée à l'unité romaine par les efforts de Don Guéranger, et l'on peut espérer que les bénédictins finiront aussi par rappeler toutes les églises à la pleine observance du vrai plein chant. « Celle-ci surtout, soupira Durtal, il a regardé sa cathédrale, l'aimait davantage encore, maintenant qu'il devait pour quelques jours s'éloigner d'elle. Il essayait pour mieux graver son souvenir en lui, de la récapituler, de la condenser, et il se disait, elle est un résumé du ciel et de la terre, du ciel dont elle montre la phalange serrée des habitants, prophètes, patriarches, anges et saints, éclairant avec leur corps diaphane l'intérieur de l'église, chantant la gloire de la mère et du fils. » De la terre car elle prêche la montée de l'âme, l'ascension de l'homme. Elle indique nettement en effet aux chrétiens l'itinéraire de la vie parfaite. Ils doivent, pour comprendre le symbole, entrer dans le palais royal, franchir la nef, le transept, le chœur, les trois degrés successifs de l'ascèse, gagner le haut de la croix, là où repose, sainte d'une couronne par les chapelles de l'abside, la tête et le col penché du Christ, que simule l'autel et l'axe infléchi du cœur. Et ils sont alors arrivés à la vie unitive, tout près de la Vierge qui ne gémit plus, ainsi que dans la scène douloureuse du calvaire au pied de l'arbre, mais qui se tient voilée sous l'apparence de la sacristie, à côté du visage de son fils, se rapprochant de lui pour mieux le consoler, pour mieux le voir. Et cette allégorie de la vie mystique, décelée par l'intérieur de la cathédrale, se complète au dehors par l'aspect suppliant de l'édifice. Affolée par la joie de l'union, l'âme désespérée de vivre n'aspire plus qu'à s'évader pour toujours de la géhenne de la chair. Aussi adjure-t-elle l'époux, avec les bras levés de ses tours, d'avoir pitié d'elle, de venir la chercher, de la prendre par les mains jointes de ses clochers, pour l'arracher de terre et l'emmener avec lui au ciel. Elle est enfin, cette basilique, la plus magnifique expression de l'art que le Moyen-Âge nous ait légué. Sa façade n'a ni l'effrayante majesté de la façade ajourée de Reims, ni la lenteur ni la tristesse de Notre-Dame de Paris, ni la grâce géante d'Amiens, ni la massive solennité de Bourges. Mais elle révèle une imposante simplicité, une sveltesse, un élan qu'aucune autre cathédrale ne peut atteindre. Seule la nef d'Amiens se lamine, s'écharne, s'effile, se filise, fuse aussi ardemment que la sienne du sol. Mais le vaisseau d'Amiens est clair et morne, et celui de Chartres est mystérieux et intime. Et il est de tous celui qui évoque le mieux l'idée d'un corps délicat de sainte, émacié par les prières, rendu par les jeûnes presque lucides. Puis ses verrières sont sans pareille, supérieures même à celles de Bourges, dont le sanctuaire est cependant fleuri de somptueux bouquets de déicoles. Enfin, sa sculpture du porche royal est la plus belle, la plus extraterrestre, qui ait jamais été façonnée par la main de l'homme. Elle est encore presque unique, car elle n'a rien de l'aspect douloureux et menaçant de ses grandes sœurs. C'est à peine si quelques démons grimacent aux aguets sur ses portails pour tourmenter les âmes. La liste de ses châtiments est courte, elle se borne à énumérer en quelques statuettes la variété des peines. Au-dedans, la Vierge reste surtout la Vierge de Bethléem, la jeune mère, et Jésus est toujours un peu enfant avec elle et lui obéit lorsqu'elle l'implore. Elle avère du reste l'ampleur de sa patience, de sa charité, par le symbole de la longueur de sa crypte et de la largeur de sa nef, qui surpasse celle des autres basiliques. Elle est en somme la cathédrale mystique par excellence, celle où la Madone accueille avec le plus de mansuétude les pécheurs. « Voyons, » fit Durtal en consultant sa montre, « l'abbé Gévresin doit avoir terminé son déjeuner, c'est le moment de lui faire mes adieux, avant que de rejoindre l'abbé Plon à la gare. » Il traversa la cour de l'évêché et sonna chez le prêtre. « Vous voici sur votre départ, » dit Madame Bavoyle, qui ouvrit la porte et le conduisit près de son maître. « Mais oui, je vous envie, » soupira l'abbé, « car vous allez assister à de merveilleux offices et entendre d'admirables chants. Je l'espère, si seulement cela pouvait me coordonner et me permettre de me retrouver chez moi, dans mon âme, et non plus dans je ne sais quel logis ouvert à tous les vents.
Elle manque de serrure et de loquet, votre âme, fit Madame Bavoyle en riant.
Elle est un lieu public où toutes les distractions s'accostent et jasent. Je suis constamment sorti, et quand je veux rentrer chez moi, la place est prise.
Dame, ça se conçoit. Vous n'ignorez pas le proverbe « qui va à la chasse, perd sa place ».
C'est très joli à dire, mais...
Mais notre ami, le Seigneur a prévu le cas. Lorsqu'à propos de ces diversions qui voltigent dans l'esprit comme des mouches, il a répondu aux plaintes de Jeanne de Mattel, désolée par ses noises, d'imiter le chasseur, dont le carnier n'est jamais vide, parce qu'à défaut d'une grosse proie, il s'empare en chemin de la petite qu'il rencontre.
Encore faudrait-il en rencontrer une. Vivez en paix là-bas, dit l'abbé. Ne vous occupez pas d'examiner si oui ou non votre domaine est clos, et écoutez ce conseil. Vous avez coutume, n'est-ce pas, de débiter des oraisons que vous savez par cœur. Et c'est surtout pendant ce temps que les évagations se produisent. Eh bien, laissez de côté ces oraisons et suivez très régulièrement dans la chapelle du cloître les prières des offices. Vous les connaissez moins, vous serez obligé, ne fût-ce que pour bien les comprendre, de les lire avec soin. Vous aurez donc moins de chances de vous désunir.
Sans doute, répliqua Durtal. Mais quand l'on n'a pas dévidé les prières que l'on a pris l'habitude de réciter, il semble que l'on n'a pas prié. Je conviens que ce que j'avance est absurde, mais il n'est point de fidèle qui ne l'aperçoive cette impression lorsque l'on change le texte de ses patronôtres.
L'abbé sourit. Les vraies exhortations, reprit-il, sont celles de la liturgie, celles que Dieu nous a enseignées lui-même, les seules qui se servent d'une langue digne de lui, de sa propre langue. Elles sont complètes et elles sont souveraines. Car tous nos désirs, tous nos regrets, toutes nos plaintes sont fixés dans les psaumes. Le prophète a tout prévu et tout dit. Laissez-le donc parler pour vous et vous prêter ainsi, par son intermédiaire auprès de Dieu, son assistance. Quant aux suppliques que vous pouvez éprouver le besoin d'adresser à Dieu, en dehors des heures réservées à leur usage, faites-les courtes. Imitez les solitaires de l'Égypte, les pères du désert, qui étaient des maîtres en l'art doré. Voici ce que déclare à Cassien le vieil Isaac. Priez peu à la fois et souvent, de peur que si vos oraisons ne sont longues, l'ennemi ne vienne à les troubler. Conformez-vous à ces deux règles, elles vous sauveront des émeutes intimes. Allez donc en paix, et n'hésitez pas d'ailleurs, si quelque embarras vous survient, à consulter l'abbé Plomb.
Et notre ami, s'exclama en riant Madame Bavoyle, vous pourriez encore enrayer vos dissipations en usant du moyen qu'employait l'abbesse Saint-Or pour psalmodier le psautier. Elle s'asseyait dans une chaire dont le dos était percé de 100 longs clous, et quand elle se sentait s'évaporer, elle s'appuyait fortement les épaules sur leurs pointes. Rien de tel, je vous en réponds, pour rallier les gens et ranimer l'attention qui s'endort.
Merci bien.
Autre chose, reprit-elle, cessant de rire, vous devriez différer votre départ de quelques jours, car après-demain se célèbre une fête en l'honneur de la Vierge. L'on attend des pèlerinages de Paris, et l'on portera en procession dans les rues la châsse qui contient le voile de notre mère.
« Ah !» s'écria Durtal, « je n'aime guère les dévotions en commun. Quand Notre-Dame tient ses assises solennelles, je m'absente et j'attends pour la visiter qu'elle soit seule. Les multitudes, bramant des cantiques, avec des yeux qui rampent ou cherchent des épingles à terre sous prétexte d'onction, m'excèdent. Je suis pour les reines délaissées, pour les églises désertes, pour les chapelles noires. Je suis de l'avis de Saint-Jean de la Croix, qui avoue ne pas aimer les pèlerinages des foules, parce que l'on en revient encore plus discret qu'on y est allé. » Non, ce qu'il me coûte un peu de quitter en m'éloignant de Chartres, c'est justement ce silence, cette solitude de la cathédrale, ces entretiens dans la nuit de la crypte et le crépuscule de la nef avec la Vierge. Et c'est ici seulement qu'on est auprès d'elle et qu'on la voit.
Au fait, reprit-il après un moment de réflexion, on la voit dans le sens exact du mot, ou du moins l'on peut s'imaginer la voir. S'il est un endroit où je me représente son visage, son attitude, son portrait en un mot, c'est à Chartres.
Comment cela ? Mais, monsieur l'abbé, nous ne possédons en somme aucun renseignement sérieux sur la physionomie, sur l'allure de notre mère.
Ces traits demeurent donc incertains, exprès, j'en suis sûr, afin que chacun puisse la contempler sous l'aspect qui lui plaît le mieux, l'incarner dans l'idéal qu'il rêve. Tenez, saint Épiphane, il nous la décrit grande, les yeux olivâtres, les sourcils arqués très noirs, le nez aquilin, la bouche rose et la peau dorée. C'est une vision d'homme de l'Orient. Prenez d'autre part Marie d'Agreda. Pour elle, la Vierge était lancée à les cheveux et les sourcils noirs, les yeux tirant vers le vert obscur, le nez droit, les lèvres vermeilles et le teint brun. Vous reconnaissez là l'idéal de grâce espagnole que concevait cette abbesse.
Consultait enfin la sœur Emmerich. Suivant elle, Marie est blonde, a de grands yeux, le nez assez long, le menton un peu pointu, le nez clair, et sa taille n'est pas très élevée. Ici nous avons affaire à une Allemande, que ne contente point la beauté brune. Et l'une et l'autre de ces deux femmes sont des voyantes, auxquelles la Madone est apparue, en pointant justement la seule forme qui pouvait les séduire. De même qu'elle se montra sous un modèle de joliesse fade, le seul qu'elle pouvait comprendre, à Mélanie de la Salette et à Bernadette de Lourdes. Eh bien, moi qui ne suis point un visionnaire et qui dois avoir recours à mon imagination pour me la figurer, il me semble que je l'aperçois dans les contours, dans l'expression même de la cathédrale. Les traits sont un peu brouillés dans le pâle éblouissement de la grande rose qui flamboie derrière sa tête, telle qu'un nimbe. Elle sourit et ses yeux tout en lumière ont l'incomparable éclat de ses clairs saphirs qui éclairent l'entrée de la nef. Son corps fluide s'effuse en une robe candide de flammes, rayée de cannelures, côtelée ainsi que la jupe de la fausse Berthe. Son visage a une blancheur qui se nacre, et la chevelure, comme tissée par un rouet de soleil, vole en des fils d'or. Elle est l'épouse du cantique, Pulchra ut Luna, Electra ut Sol. La basilique où elle réside et qui se fond avec elle s'illumine de ses grâces. Les gemmes des verrières, jusqu'au comble, décèlent ses aspirations et ses désirs. Le pavé raconte son humilité, les voûtes qui se réunissent, de même qu'un dé au-dessus d'elle, narrent sa charité. Les pierres et les vitres répètent ses anciennes, et il n'est pas jusqu'à l'aspect belliqueux de quelques détails du sanctuaire, jusqu'à cette tournure chevaleresque rappelant les croisades, avec les lames d'épée et les boucliers des fenêtres et des roses, le casque des ogives, les cottes de mailles du clocher vieux, les treillis de fer de certains carreaux, qui n'évoquent le souvenir du capitule de Prime, de l'ancienne de Lode, de son petit office. Qui ne traduisent le Terribilis ut Castrorum assies ordinata, qui ne relatent cette privauté qu'elle possède quand elle le veut, d'être ainsi qu'une armée rangée en bataille terrible. Mais elle ne le veut pas souvent ici, je crois. Aussi cette cathédrale est-elle surtout le reflet de son inépuisable mansuétude, l'écho de son impartible gloire. À vous, il vous sera beaucoup pardonné, parce que vous l'aurez beaucoup aimé, s'écria Madame Bavoil. Et Durtal, se levant pour prendre congé, elle l'embrassa affectueusement, maternellement, et dit « Nous prierons de toutes nos forces, notre ami, afin que Dieu vous instruise, vous indique votre vocation, vous guide lui-même dans la voie que vous devez suivre. J'espère, monsieur l'abbé, que pendant mon absence, vos rhumatismes vous laisseront un peu de répit, » fit Durtal en serrant la main du vieux prêtre. « Oh, il ne faut pas souhaiter de ne plus du tout souffrir, » répliqua l'abbé, « car il n'est si lourd de croix que de n'en point avoir. Aussi faites comme moi, ou plutôt mieux que moi qui gince encore. Prenez gaiement partie de vos sécheresses, de vos épreuves. Adieu, que le Seigneur vous bénisse. Et que l'aïeul des Madones de France, que la Dame de Chartres vous protège, » ajouta Madame Bavoil, qui, lorsque la porte fut fermée, soupira. « Certainement j'aurais bien gros cœur s'il quitte pour jamais notre ville, car il est un peu notre enfant, cet ami-là. » Mais ce que je serais tout de même heureuse s'il devenait un vrai moine. » Et elle se mit à sourire. « Père, fit-elle, est-ce qu'on lui coupera la moustache s'il entre dans un cloître ?» N'en doutez pas. Elle tenta un effort pour se préciser Durtal, le glabre, et elle conclut en riant. « J'ai idée que cette rasure ne l'avantagera guère. »« Ces femmes, » dit l'abbé en haussant doucement les épaules. « Enfin, » reprit-elle, « que devons-nous augurer de ce voyage ? Ce n'est pas à moi qu'il convient de le demander, Madame Bavoil. C'est juste. » Et elle joignit les mains, murmurant « Cela dépend de vous. Assistez-le dans sa pénurie. Pensez qu'il ne peut rien sans votre aide, bonne tentatrice, Notre-Dame du Pilier, Vierge de sous-terre. »